Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Dervi. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Patrick Auguet, président des Amis de l'Église Saint-Hilaire. Il va nous conter l'histoire de l'oratoire de la Malerie à Nogent-le-Rotrou. Il évoquera également les travaux qui ont été réalisés à propos de l'Église Saint-Hilaire. Patrick Auguet, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, cet oratoire de la Malerie avait, pour ainsi dire, disparu, c'est bien cela.
Effectivement, l'oratoire de la Malerie, qui date du milieu du XIXe siècle, avait connu une longue période d'oubli, de déshérence, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il a été en quelque sorte désaffecté en ce qui concerne les processions, les témoignages qui étaient rendus à la Vierge au sein de cet oratoire.
Oui, et puis là, il vient d'être inauguré après des mois de travaux avec la présence de notre curé, du maire, des autorités de la ville. Et j'aimerais bien que vous nous contiez cette histoire. D'abord, oratoire, ce que ça signifie, et de la Malerie aussi, un autre mot qu'on connaît peu, qui est réapparu, je dirais.
Alors effectivement, c'est un oratoire, c'est-à-dire que ça n'est pas une chapelle.
Voilà, c'est-à-dire et la différence
que, il y a d'ailleurs un autel, mais qui est un autel qui n'a pas donné lieu à consécration pour y célébrer l'Eucharistie. Mais c'est un lieu qui est destiné à recevoir des pèlerins, à recevoir des visiteurs pour rendre hommage à la Vierge, qui a été effectivement la patronne, en quelque sorte, oui, auquel a été dédié cet oratoire. Notre-Dame des Douleurs est d'ailleurs l'initiateur de cet oratoire, avait placé sur cet autel une statue de la Pietà. Vous savez que la Pietà représente la Vierge qui reçoit au pied de la croix, le corps du Christ, après effectivement qu'il ait été remis à sa mère.
Voilà.
Donc, la Pietà était le symbole, en quelque sorte, de ce que voulait sa créatrice. Sa créatrice était une dame privée qui, probablement, avait le souci d'apporter quelque chose à la communauté religieuse de Saint-Hilaire, et donc a créé cet oratoire en milieu à peu près du XIXe siècle. L'originalité de cet oratoire, c'est qu'il est sous une butte de terre, et que, d'ailleurs, cela a permis effectivement sa conservation, parce qu'il était protégé par sa situation souterraine, en quelque sorte. Cette dame, avant de décéder, a cédé l'oratoire à l'église Saint-Hilaire. Donc, initialement, c'était un oratoire privé, et c'est devenu une annexe, en quelque sorte, de l'église Saint-Hilaire.
Alors, ça faisait partie de la maison qui est au-dessus.
Alors, c'était une maison qui n'existe plus maintenant. Maintenant, il y a un immeuble collectif, mais c'était effectivement une maison et un parc qui était là et qui, effectivement, agrémentait, si je puis dire, de cette construction souterraine. Alors, en 1860...
Alors, cette... souterraine, enfin, mais quand même...
Sous une butte, plus exactement. Voilà. C'est-à-dire, il est recouvert de terre, mais effectivement...
D'autant que maintenant, vous l'avez complètement dégagé et que on le voit beaucoup mieux, cet oratoire.
Alors, on le voit beaucoup mieux parce qu'effectivement, on a été amené à lui redonner, en quelque sorte, sa physionomie initiale en le dégageant de tout ce qui avait pu, effectivement, l'occulter. Et la plupart des Nogentais, d'ailleurs, ne savaient même pas qu'il y avait là un oratoire parce qu'il était tombé totalement dans l'oubli de nos concitoyens.
Par contre, les vieux Nogentais, eh bien, en avaient connaissance parce que quand ils faisaient leur communion donc à l'église Saint-Hilaire, ils allaient après en procession de communion vers cet oratoire.
Absolument. Donc effectivement, quand cet oratoire a été cédé à l'église Saint-Hilaire, eh bien, il est devenu en quelque sorte un lieu que l'église Saint-Hilaire utilisait pour des pèlerinages, pour des processions, pour ne pas employer un trop grand mot. Mais, et en particulier, comme vous le disiez, pour les communiants de l'église Saint-Hilaire, puisque à l'époque, chaque église de nos gens organisait ces communions solennelles. Oui. On les appelait comme ça à l'époque. Et les communiants étaient en procession, appelés à aller rendre hommage à la Vierge devant cet oratoire dans l'après-midi qui suivait la cérémonie du matin. Donc c'est un oratoire qui avait été effectivement très utilisé, je dirais, pour justement ce type de dévotion, et puis qui, après la Deuxième Guerre mondiale, était tombé un peu dans l'oubli vers 1950-1955.
Alors comment vous est venue, vous, cette idée de restaurer cet oratoire ?
Eh bien, c'est un certain nombre de personnes qui, sachant que nous animions l'association des Amis de l'Église Saint-Hilaire, nous ont gentiment interpellés en disant « Mais puisque vous avez beaucoup travaillé sur l'Église Saint-Hilaire, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas également quelque chose pour redonner à cet oratoire sa physionomie initiale ?» Alors, c'est ce que nous avons effectivement fait. Alors, entre-temps, l'oratoire avait été, transféré en propriété à la ville, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, en même temps que l'Église Saint-Hilaire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous avons fait sa restauration, il y a donc maintenant 2 ans, eh bien, nous avons travaillé en liaison avec la ville de Nogent-le-Rotrou, qui est propriétaire. Oui. Alors, c'est un site qui comprend l'oratoire, dont je vais vous reparler dans un instant, mais également un calvaire, et qui se dresse là, et qui fait partie de cet ensemble, et que nous avons également restauré.
Alors, cet oratoire, c'est quelque chose de très nouveau. Maintenant, il va être ouvert aux paroissiens.
Alors, effectivement, notre intention, et d'ailleurs, on a déjà réalisé cela cette année, donc il a été réouvert en 2018, au mois de mai 2018. Et à partir de cette année, tous les premiers dimanches du mois, l'oratoire est ouvert à la visite. Donc les Nogentais et d'autres personnes peuvent venir effectivement s'y recueillir ou simplement le visiter. Et chaque année, le 15 du mois de septembre, qui est la fête de Notre-Dame des Douleurs, eh bien, le curé de la paroisse organise une procession et qui permet effectivement de rendre hommage à la Vierge qui était représentée par la Pietà, dont j'ai parlé il y a un instant, Pietà qui maintenant figure dans l'église Saint-Hilaire, après que nous l'ayons fait restaurer.
Alors, tout cela a dû vous demander beaucoup de travail, parce que, premièrement, on ne voyait plus, et deuxièmement, j'imagine que l'intérieur devait être complètement détérioré.
Alors, effectivement, on ne le voyait plus, l'extérieur était recouvert de lierre, il a fallu tout nettoyer de façon très active. Et à l'intérieur, comme je le disais, donc, la structure n'avait pas trop souffert parce qu'il était protégé justement par cette butte de terre. Mais l'autel, les parois qui étaient en bois ont dû être totalement refaites et restaurées pour leur permettre de retrouver effectivement leur aspect initial. Ça a été fait par les bénévoles de l'association.
Oui, alors ça, c'est l'association de l'église Saint-Hilaire.
C'est l'association de l'église Saint-Hilaire, donc ça rentrait en quelque sorte
dans le giron, dans
notre compétence, puisque ça fait partie intégrante de l'église Saint-Hilaire. Donc c'était des personnes qui étaient tout à fait dévouées à cette église.
D'ailleurs, qui ont dû creuser alors. Qui ont dû recreuser pour retrouver...
Alors, il n'a pas fallu recreuser parce qu'il y avait quand même... Non, il a fallu tout repeindre, il a fallu refaire certains murs qui étaient évidemment en état de pourriture.
Mais la terre n'avait pas envahi...
Non, pas du tout, non. Et donc, on a été amené à faire repeindre également le mur, disons, central de cet oratoire, qui est en bois, et qui comportait d'ailleurs des colonnades très sympathiques et très décoratives, mais également une peinture qui représentait de part et d'autre de l'autel, du tabernacle, les instruments de la Passion. Donc c'était effectivement un ornement qui avait été prévu à l'époque et qu'on a tenu à restituer dans la...
Et qui a fait ces restaurations ?
Alors c'est un restaurateur bien connu de beaucoup de nos Nogentais, qui est Jean-Claude Callot,
oui.
qui est intervenu sur beaucoup de monuments et, de, et d'édifices, et qui a bien voulu effectivement prendre en charge cette restauration qui permet effectivement de donner à, les, à l'oratoire sa, sa pleine... disons, magnificence, parce que je trouve qu'il est vraiment magnifique dans la, la forme où on l'a pu le restituer. Alors, donc, effectivement, ce sont nos, nos bénévoles qui ont fait ce travail. Il y a un tabernacle, mais qui n'est pas, qu'on ne peut pas ouvrir, parce que, comme je le disais, il n'y a pas eu... C'est pas un hôtel où on célèbre l'Eucharistie, donc le tabernacle est un tabernacle, un faux tabernacle, si on peut dire, enfin factice, mais qui, malgré tout, orne l'ensemble de cet hôtel qui a été également restauré. Alors, bien sûr, on a été amené également à revoir l'extérieur de l'oratoire.
Mais je pense toujours à l'intérieur. Il y a un chemin de croix aussi.
Alors, effectivement, il y a un chemin de croix, alors très, très modeste, parce que l'oratoire n'est pas très grand, on ne pouvait pas mettre, effectivement, des stations trop importantes. Et, disons, une fidèle membre de l'association de l'église Saint-Hilaire, qui est Christine Colpin, qui était la fille du docteur Boutron, et donc qui avait recueilli le chemin de croix qui figurait dans la chapelle de la clinique Boutron.
Oui, ça c'est vraiment bien.
Avant, effectivement, qu'elle ait été affectée à un autre objectif, un autre usage, eh bien, nous a donné cette, ce chemin de croix et nous l'avons effectivement installé autour des murs de la, sur les murs de la Malerie.
Donc voilà. C'était très gentil parce que c'est un petit peu de cette chapelle de la clinique qui vient dans cette chapelle Saint-Hilaire et ça, c'est quand
voilà, tout à fait. C'est effectivement, beaucoup de nos gentils se souviennent de la clinique Boutron et donc où ils sont nés même.
Oui.
Et donc voilà. Et, alors, à côté de, la, de l'oratoire, il a fallu évidemment refaire aussi tous les extérieurs qui avaient été abîmés. Et il y a un escalier qu'on a aussi remis en état, qui nous permet de monter au calvaire, qui a été, comme je le disais, reconstitué, parce qu'il était en mauvais état, à la fois par la mairie, en ce qui concerne son soubassement, et par l'association.
Il y a combien de marches
Oh, il y a, alors là, je ne les ai pas comptées, à vrai dire, mais enfin, il y a à peu près...
Non, ça aurait pu être symbolique. Non,
une douzaine de marches, mais ce sont des marches en pierre solide,
oui, oui.
qu'il a fallu remettre en état, et auxquelles on a redonné leur, leur utilité avec les moyens de sécurité nécessaires. On a fait une rambarde pour que les gens puissent effectivement monter sans risquer quoi que ce soit.
Voilà. Donc, un calvaire, qu'on, d'ailleurs, on la voit de loin, cette croix.
Alors, on la voit de très loin. Elle est très importante. Elle fait à peu près 3 mètres de haut. Donc,
oui, c'est ça.
Et on a été amené donc à la reconstituer, et ainsi que d'ailleurs le Christ qui était sur cette croix, qu'il a fallu aussi ressouder. Il avait donc un bras qui était dissocié du reste. Et donc, on a fait ce travail également pour redonner à ce calvaire bien son aspect initial.
Oui. Donc, on peut dire que maintenant, le quartier Saint-Hilaire a non seulement son église, mais sa chapelle, et cela permet aux communiants encore. Est-ce que les communiants vont reprendre ce chemin? Parce que je trouvais que c'était une très bonne idée.
Je ne crois pas, parce que vous savez que les communions maintenant ne sont plus dans chacune des églises nogentaises, mais sont regroupées sur un seul site. Ça peut être Saint-Hilaire, mais ça peut être Saint-Laurent ou une autre église. Et donc, il n'y a plus, si vous voulez, cette...
Mais on pourrait peut-être dire que quand c'est Saint-Hilaire...
Pourquoi pas? Mais en tous les cas, donc, l'abbé Coate, le curé de la paroisse, a tenu à ce qu'il y a en tout cas cette procession le 15 septembre pour que, justement, on poursuive la tradition, quelque sorte, de la procession de Saint-Hilaire vers l'oratoire ou de l'oratoire vers Saint-Hilaire.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Patrick Auguet et dans une première partie, nous avons évoqué l'oratoire de la Malerie. Maintenant, Patrick Auguet aimerait parler des différents travaux qui ont lieu et qui ont eu lieu et qui auront lieu aussi dans l'église Saint-Hilaire, puisque c'est lui le président de l'association et il œuvre beaucoup pour cette église Saint-Hilaire. Alors, Patrick Auguet, vous avez déjà fait beaucoup de travaux dans l'église Saint-Hilaire. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Dites-nous.
Alors effectivement, c'est une église qui est millénaire, donc qui avait connu au cours du temps beaucoup de transformations.
Mais, et beaucoup de vicissitudes.
Effectivement, mais alors quand nous avons créé l'association pour la sauvegarde de cette église, elle avait été fermée pendant 17 ans. Et donc elle était dans un état que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'il a fallu la remettre en ordre et en état de façon assez complète.
Parce qu'il faut dire aussi que la rivière coule à côté et que ça donne beaucoup d'humidité à cette église.
Exactement. Il y avait eu donc aussi des inondations, même au-delà de l'humidité ambiante. Et donc, on a été amené à refaire un travail considérable de nettoyage et de remise en état de l'intérieur de cette église.
D'assainissement, en quelque sorte.
D'assainissement. Alors, notre travail a porté d'abord sur le cœur, parce qu'effectivement, la vocation de cette église, c'est d'abord le culte. Et donc, il était logique que nous commencions par remettre en état le cœur pour qu'elle puisse effectivement redonner lieu à des cérémonies. Le dimanche, en fin d'après-midi, tous les dimanches, il y a une messe et il y a de nombreux mariages ou enterrements qui se font maintenant dans cette église Saint-Hilaire. Donc il a fallu recomposer le chœur qui avait d'ailleurs été assez largement dégradé. Bon, il y avait eu des sévices en quelque sorte, l'autel avait été cassé, plusieurs statues.
Ah, l'autel avait été cassé.
Ah oui, tout à fait. Donc il nous a fallu reconstituer l'ensemble de ce chœur en sauvegardant l'essentiel de ce qui était les éléments qui s'y trouvaient initialement, mais on n'a pas pu effectivement tout reconstituer tel que ça était auparavant. D'autre part, on a été amené parce que la liturgie avait changé, à réorienter l'autel pour que le prêtre puisse célébrer face aux fidèles. Donc, réorganisation totale du chœur. Et puis ensuite, on a restauré le chemin de croix, qui est un chemin de croix très original et intéressant, car il est constitué par en polychrome, des peintures sur cuivre, ce qui donne une vivacité aux teintes qui ont été mises pour illustrer les différentes stations, tout à fait remarquable. Et on a même maintenant mis des LED pour le mettre en valeur. Et donc, on a refait aussi le chemin de croix de façon totale.
Oui, parce que pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'église Saint-Hilaire, j'aurais bien aimé peut-être que vous évoquiez cette église qui est très belle et qui a des très beaux vitraux et aussi, surtout, une très belle statuaire, je dirais.
Alors, effectivement, donc, en dehors du chœur et du chemin de croix, on a retravaillé, on a fait restaurer les nombreuses statues qui se trouvent dans l'église et qui ont été, parce que la Révolution était passée par là, il y avait beaucoup de statues qui avaient disparu. Oui. Et donc, c'était un curé de l'époque, deuxième partie du 19e siècle, qui a remis en quelque sorte en place un certain nombre de statues de style un peu sulpicien, si vous voulez. Donc on retrouve à ce moment-là cette inspiration de l'époque qui figure toujours donc dans l'église de façon intéressante. Et puis on a maintenant un autre projet. Alors on a fait évidemment aussi la restauration des vitraux. Et on va d'ailleurs inaugurer dans quelques jours l'achèvement des travaux sur les vitraux du chœur. Il y a un ensemble de 7 baies tout à fait importantes, avec des rosaces d'ailleurs qui les surplombent. Et nous allons faire l'inauguration de l'achèvement de cet ensemble de vitraux qui ont été restaurés par l'association, mais avec des financements publics aussi, oui, et privés, car on a beaucoup tenu à ce que les deux puissent se conjuguer. Eh bien, on va le faire dans quelques jours, avec d'ailleurs la présence de Stéphane Bern, qui effectivement s'intéresse à notre patrimoine nogentais.
Parce qu'il vient non seulement pour l'oratoire, mais aussi pour l'église Saint-Hilaire.
Là, ça sera surtout pour l'église Saint-Hilaire et pour cet ensemble de vitraux assez exceptionnel qui était ainsi restauré.
Alors peut-être pouvez-vous nous décrire ces vitraux ?
Alors il y a d'abord y a au sommet de au-dessus des vitraux des baies classiques, je dirais, il y a des rosaces. Et chaque rosace représente un élément d'un sacrement, d'un des sept sacrements. Donc, si vous voulez, on retrouve... Et on avait coutume de dire à une certaine époque que finalement, c'était une sorte de catéchisme en images.
Oui.
C'est-à-dire que pour les gens qui ne savaient pas lire et qui ne pouvaient pas s'instruire à partir des documents qu'on leur soumettait, au moins, on pouvait leur expliquer en commentant les vitraux ce qu'était le baptême, la confirmation, etc. Et puis, alors ensuite, le reste...
Les sacrements, ils se trouvent où, dans l'église ?
Alors, au sommet du cœur, dans le cœur, n'est-ce pas, sont les rosaces qui dominent effectivement les autres vitraux. Alors, les autres vitraux, qui sont les fenêtres principales, ont été consacrés, en quelque sorte, à un certain nombre, aux évangélistes d'abord, à des prélats, à des docteurs de la foi. Donc il y a un grand nombre de personnalités religieuses de l'histoire de l'Église universelle, dont je dois dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi ceux-là ont été choisis dans cette église percheronne, mais c'est un fait, c'est intéressant. Et dans le petit livret qu'on a établi...
Oui, parce que vous avez écrit un livre, et ça, je tiens à le signaler à nos auditeurs.
Voilà.
On peut le trouver d'ailleurs dans l'église.
Dans l'église, ou à la paroisse, on peut se le procurer.
Voilà. Et c'est très bon marché, et c'est vraiment pour l'église.
Permet d'avoir un descriptif total de l'église. Et par exemple, Bérambure a fait une petite biographie de chacun des personnages qui sont sur ces vitraux du cœur. Et puis alors, notre prochain défi, en quelque sorte, c'est de remettre en état un orgue qui se trouve sur la tribune du fond de l'église, qui a été installé en 1907 à Nogent par quelqu'un que certains Nogentais, le nom leur dira quelque chose, c'est l'abbé Tronchet.
Oui.
C'est donc une famille qui était effectivement de Nogentaise. Et nous allons lui redonner effectivement sa vocation musicale. C'est un instrument qui a été expertisé, qui véritablement mérite d'être restauré. Et nous avons pour cela lancé une souscription avec la Fondation du patrimoine, pour recueillir des fonds qui viendront évidemment se conjuguer au financement public que nous avons également sollicité et au financement donné par l'association.
Oui. Alors, est-ce que vous aurez un organiste ? Parce que moi, c'est ça qui m'attriste, parce que souvent, l'orgue est bien, mais il n'y a pas d'organiste. Alors, c'est tellement bien une messe avec...
Alors actuellement, on a donc installé une sorte d'harmonium un peu perfectionné dans le chœur, si vous voulez.
Oui.
Et quand il y a une cérémonie, il y a effectivement quelques personnes qui sont, pas systématiquement, mais assez souvent, disponibles pour faire, en quelque sorte, fonctionner cet instrument. Nous n'avons pas un organisme attaché à Saint-Hilaire. Ça serait évidemment tout à fait excessif, parce que, comme je le disais, il y a une messe tous les dimanches, puis il y a de temps en temps quand même des mariages et des enterrements. Mais effectivement, nous serons amenés à faire appel à des artistes qui voudront bien, effectivement, faire fonctionner cet instrument.
Ah ben ça, c'est une très bonne nouvelle, alors.
Alors voilà, donc c'est encore un projet qui est devant nous.
Les frais sont
on n'a pas encore tout à fait terminé. Encore, c'est pour ça qu'on a fait la souscription. Et donc, toutes les personnes qui veulent effectivement nous donner leur écho sont les bienvenues pour qu'on puisse effectivement réunir à la fois les fonds publics qui m'ont été annoncés, les fonds d'association qui ont été aussi prévus, mais également les résultats de cette souscription publique. Et dès qu'on aura réuni les financements nécessaires, eh bien, on entreprendra la réfection, la restauration plus exactement de cet orgue. Et donnera, à ce moment-là, on donnera à cette église, si vous voulez, en quelque sorte sa plénitude,
oui,
n'est-ce pas, à la fois architecturale, mais également intérieure et musicale, telle qu'elle avait été conçue par ses initiateurs. Mmh. Enfin, ses initiateurs multiples, parce qu'encore une fois, en mille ans, elle a été à nombreuses reprises remaniée. On a le chœur est du XIIIe siècle, la nef du XVIe siècle, le clocher également du XVIe siècle, et puis il y a eu d'autres aménagements au XIXe siècle. Donc c'est une église qui a beaucoup, effectivement, évolué. Et ce que l'on s'est attaché à faire en ce qui nous concerne, c'est effectivement d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de cette église.
Oui, oui.
On est des passeurs, en quelque sorte.
Mais là, vous êtes un grand maillon, parce que vous avez fait beaucoup, Patrick
Voilà, Ollier, vers les générations futures qui pourront, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais on a tenu, et je dois dire que l'intérêt des Nogentais s'est manifesté à l'égard de cette église. Mmh. Notre association continue à bien fonctionner, bien qu'elle a maintenant 9 ans d'âge. Et donc, nous avons effectivement la possibilité d'avoir une sorte de levier vis-à-vis des fonds publics, n'est-ce pas? Parce qu'en apportant des fonds privés,
voilà,
et des fonds d'association,
les
collectivités locales, voire étatiques, mais ils sont peut-être un peu moins généreux, se sentent en quelque sorte solidaires des efforts que nous faisons nous-mêmes pour ajouter leurs efforts, et ce qui nous a permis de faire quand même beaucoup de travaux dans les 9 années qui ont précédé l'inauguration qu'on va faire dans les jours qui viennent.
Et est-ce que vous avez des fêtes en perspective pour récolter de l'argent?
Alors, chaque année jusqu'à présent, on a fait des concerts.
Oui.
On a fait venir le chœur de l'armée russe, le chœur de l'armée française, le chœur de l'armée de l'air. On a fait venir un certain nombre d'autres. Et on va recommencer. Alors, cette année, on fait cette inauguration de façon assez solennel.
Ah oui.
Et on va d'ailleurs avoir un intermède musical avec les Ménestrels du Perche, et puis Pierre Scherrer, qui est un saxophoniste très, très, très connu. Mais dès l'année prochaine, on recommencera à faire des concerts de façon à pouvoir effectivement récupérer quelques moyens.
Est-ce que ça vous donne quand même beaucoup de moyens ou non?
Alors,
pas trop?
Oui, ça permet d'abord de donner à l'Église sa vocation culturelle. Parce
Exactement.
Que l'engagement que nous avons pris vis-à-vis des collectivités, de la ville notamment, c'était de dire c'est un lieu de culte d'abord, mais c'est aussi un lieu de culture, lieu patrimonial en quelque sorte, et que nous voulons mettre en valeur. D'ailleurs, pendant tout l'été, pendant 3 mois, il y a tous les après-midi des personnes qui accueillent des visiteurs.
Et les 3 mois
d'été, cette année,
oui,
on a eu plus de 600 personnes qui sont venues visiter cette église.
Ah oui, 600
Donc, si
personnes.
Vous voulez, c'est un élément du dynamisme.
Alors, il y avait quelqu'un qui faisait
visiter. Toujours. Parce qu'on ne peut pas ouvrir l'église s'il n'y a pas quelqu'un.
Et quelqu'un qui expliquait en même temps.
Et qui peuvent effectivement s'expliquer à partir des documents qu'on met à leur disposition. Donc, c'est une église qui a aussi cette vocation à la fois patrimoniale et culturelle.
Oui.
Et ça, on a beaucoup tenu à cela parce que c'était l'engagement qu'on avait pris vis-à-vis des collectivités. Si bien qu'on va recommencer l'année prochaine à faire effectivement ces manifestations culturelles de façon à permettre effectivement de donner à l'Église cette image effectivement d'ouverture vers la culture. Et après tout, le spirituel, la beauté, le culte sont quand même très largement liés dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens. Et même ceux qui ne croient pas au ciel viennent avec intérêt pour se rendre compte que le patrimoine religieux est aussi un patrimoine universel.
Oui, c'est ça. Ça peut être culturel en même temps, et ça, c'est très important.
Ça a une valeur universelle qui dépasse la sensibilité religieuse ou non des personnes qui viennent la visiter.
Des gens qui voudraient à plusieurs venir écouter une petite conférence sur l'église Saint-Hilaire, est-ce que c'est possible?
Oui, bien sûr. Oui. On en a déjà fait avec l'Office de tourisme de Nogent, qui de temps en temps nous sollicite pour effectivement faire des visites groupées.
Oui. Qui venez ou bien il y a quelqu'un qui...
Ça dépend des possibilités, mais enfin, effectivement, il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour le faire.
Eh bien, écoutez, un grand merci, Patrick Ollier. Je crois que tout le monde aura envie d'aller voir ce nouvel oratoire restauré de la Malerie. Je vous invite également à nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci Patrick Ollier.
Merci à vous.